Laudetur Jesus Christus.
Les relations étaient mauvaises, le point de rupture est arrivé. Le Rwanda a annoncé ce lundi mettre fin à ses relations diplomatiques avec la Belgique. Nous verrons ce qui a poussé à cette décision. 2,5 milliards d'euros, c'est la somme que l'Union européenne a promis aux nouvelles autorités syriennes. Une conférence des donateurs était organisée à Bruxelles aujourd'hui. Il faut trouver une voie à suivre pour l'île divisée. Le secrétaire général de l'ONU réunit pour deux jours à Genève les deux dirigeants de Chypre dans le cadre de discussions informelles. Et puis enfin l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, craint pour la vie de millions de personnes sans l'aide américaine. Leur santé est menacée. Nous irons en Haïti où MSF craint une propagation des cas de choléra à Port-au-Prince, aussi en raison de l'insécurité.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Avec le soutien des églises catholiques et protestantes de RDC, des négociations de paix directes commenceront demain à Luanda. L'Angola a proposé sa médiation entre le pouvoir de Kinshasa, qui vient pour écouter ce qu'on lui propose, et le groupe armé du M23, qui contrôle aujourd'hui de larges pans des deux Kivus, dont leur capitale Goma et Bukavu. Et à la veille de ces pourparlers importants, l'UE met la pression sur le principal soutien du M23 et protagoniste avéré de l'offensive à l'est de la RDC. 30 chefs militaires rwandais, un responsable du secteur minier aussi, sont désormais sous sanction avec gel des visas, de leurs avoirs. Et presque aussitôt, Myriam Sandouneau, les sanctions annoncées et Kigali décidait de rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique.
Oui Marie, c'est une décision radicale que prend Kigali qui assure que cette rupture est l'aboutissement d'une réflexion approfondie dans un contexte de conflit entre la République démocratique du Congo et le groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda. Dans un communiqué officiel, il a demandé à tous les diplomates belges présent au Rwanda de quitter le pays dans un délai de 48 heures, un choix que regrette la Belgique, le qualifiant de disproportionné. D'un ton dur, les autorités rwandaises accusent Bruxelles, je cite, d'avoir constamment miné le Rwanda bien avant et pendant le conflit en cours en République démocratique du Congo. Bruxelles, qui avait demandé fin janvier à l'Union européenne d'envisager des sanctions contre le Rwanda, est accusée par les autorités rwandaises de propager mensonges et manipulations pour créer une opinion hostile injustifiée et d'avoir favoriser la division ethnique au Rwanda qui a abouti au génocide de 94. À travers cette rupture diplomatique, Kigali entend ainsi protéger ses intérêts. Vous l'avez dit, des sanctions de l'Union européenne ont été imposées aujourd'hui à certains chefs militaires rwandais en raison de l'offensive du M23 qui se poursuit dans l'est de la RDC.
Merci Myriam Sandouneau. Et puis parmi les personnes visées par les sanctions européennes se trouve également Bertrand Bissimois, le président du mouvement du 23 mars. Au Soudan, l'armée tente de reprendre plusieurs quartiers de la capitale aux mains des paramilitaires depuis le début de la guerre, il y a presque deux ans. À Omdurman, ville jumelle de Khartoum, de l'autre côté du Nil, la situation est critique. Une frappe attribuée aux paramilitaires a tué 6 civils hier. Il y a aussi 36 blessés, dont la moitié sont des enfants. Le Kenya, endetté, sollicite l'aide du Fonds monétaire international pour un nouveau programme d'aide. Celui en cours s'achève au mois d'avril pour 3,6 milliards de dollars. La dernière revue n'a pas été versée. Nairobi, n'ayant pas procédé à de collectes d'impôts exigées, mais très impopulaires, des manifestations ont eu lieu l'an dernier. 20 années de progrès dans la lutte contre le sida pourraient être anéanties. L'Organisation mondiale de la santé appelle les États-Unis, son principal donateur, à reconsidérer leur soutien à la santé mondiale et ainsi leur décision de se retirer de l'OMS. Les conséquences seraient dramatiques concernant la prévention de la tuberculose. Aussi, 9 pays ont déjà fait état de manque de médicaments ou encore le paludisme. Les aides américaines ont aidé à prévenir la mort de 12,7 millions de personnes ces 20 dernières années. Et en Haïti aussi, les ONG s'inquiètent de la fin du soutien américain. MSF craint une explosion de choléra à Port-au-Prince, la capitale contrôlée à 85% par les gangs. On écoute Christophe Garnier, les chefs de mission de Médecins sans frontières sur place.
On a le sentiment effectivement qu'il n'y a pas véritablement d'indicateur aujourd'hui montrant une amélioration. On a de plus en plus de personnes déplacées qui ont été déplacées plusieurs fois. On a un accès à l'éducation générale qui est de plus en plus difficile du fait de la violence et du fait de la situation. Donc tout ça va avoir des conséquences à moyen et à long terme. Et donc c'est un pays qui aura du mal à se remettre de toute cette situation. Il y a eu ensuite une fuite également des personnes due à la violence, mais due aux opportunités l'année dernière, notamment de pouvoir aller aux États-Unis. Donc une fuite de personnes éduquées. Et puis, au niveau sanitaire immédiat, c'est que, imaginez des personnes, même des personnes ayant une très bonne hygiène de vie, qui sont chassées de chez elles et qui veulent se mettre en sécurité, qui se retrouvent à vivre dans un camp de fortune sous une bâche, sans accès à l'eau potable et sans accès à l'eau de service, avec insuffisamment de latrines. Il y a un risque d'explosion du choléra qui est très élevé. Parmi d'autres épidémies. Donc aujourd'hui, on est vraiment à risque d'avoir différentes épidémies qui vont se développer très, très vite parce que ça crée une densité énorme et avec une hygiène de base qui ne peut pas être respectée.
Des propos recueillis par Jean-Benoît Harel. Sans aide internationale, les Syriens quitteront leur pays. La Croix-Rouge met en garde contre une nouvelle vague migratoire ce lundi, alors que se tient à Bruxelles une 9e conférence des donateurs depuis le début de la guerre civile, avec un changement, notamment le régime de Bachar el-Assad, et on le sait, tombé. Et pour la première fois, un représentant du gouvernement syrien y participe. La priorité pour les nouvelles autorités de Damas est à la fois d'obtenir un soutien financier, mais aussi politique. À Bruxelles, Pierre Benazé.
Pour cette première participation syrienne à la conférence des donateurs, le ministre des Affaires étrangères, Assad El-Shibani, a évidemment plaidé pour la générosité des nouveaux partenaires internationaux de la Syrie. Un appel entendu d'avance, en quelque sorte, puisque les promesses de dons ont commencé à affluer. Par exemple, celle de la Commission européenne. Elle s'est engagée à mettre 2,5 milliards d'euros sur la table cette année et l'an prochain. L'UE rappelle avoir déjà suspendu ses sanctions sur les secteurs financiers, de l'énergie et des transports, afin d'aider à la reconstruction de la Syrie. Mais pour Assad al-Shibani, soutenu par son homologue turc, les Européens doivent non seulement suspendre, mais lever toutes les sanctions s'ils veulent assurer l'avenir de la reconstruction syrienne. L'Union européenne continue à avoir quelques réticences après les massacres de membres de la communauté alaouite dans la région de Latakié. Elle continue à demander des garanties d'inclusion des minorités, des femmes et de respect des droits de l'homme. Les besoins sont pressants, ont rappelé tous les participants. Ils soulignent la détresse humanitaire avec 16 millions de Syriens, 2/3 de la population, qui ont besoin d'assistance pour l'alimentation, l'enseignement, l'énergie ou l'eau, par exemple. Et les besoins ne se limitent pas à la Syrie, soulignent les pays voisins. Ils rappellent leur accueil généreux à plus de 7 millions de réfugiés qu'il faut toujours nourrir et héberger. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
L'Iran sera tenu pour responsable de toute attaque houthie à l'encontre des intérêts américains, dit le président Trump hier. Les rebelles chiites, soutenus par Téhéran, ont revendiqué s'en être pris un porte-avions américain en mer Rouge après la mort de 21 des leurs dans des frappes américaines. Le ton monte en tout cas entre les États-Unis et l'Iran par houthis interposés. Les houthis qui étaient des dizaines de milliers à manifester aujourd'hui en scandant « mort à l'Amérique, mort à Israël ». Israël, dont l'armée a indiqué avoir mené des frappes aériennes sur deux membres du Hezbollah dans le sud du Liban aujourd'hui, et ce malgré l'accord de trêve conclu le 27 novembre. De la pandémie à une nouvelle expérience de la guerre, à la disparition de pèlerins sur place, il faut aider la Terre Sainte. À un mois de la commémoration de la Passion du Christ, à un mois de la collecte du Vendredi Saint, le dicaster pour les églises orientales invite tous les diocèses à faire de cette quête une priorité pastorale. Plus de détails sur notre site internet. La période est aux négociations de paix à Genève. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devait rencontrer ce lundi et pour deux jours les deux dirigeants de Chypre dans le cadre de discussion informelle, les précisions d'Alexia Kefalas.
Tous les regards des Chypriotes sont tournés vers Genève, où Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a invité les deux dirigeants de Chypre pour trouver, je cite, « une voie à suivre pour cette île divisée depuis l'invasion de son quart nord par l'armée turque en 1974 ». D'un côté, Nikos Christodoulides, le président de la République de Chypre grécophone, reconnu internationalement et membre de l'Union européenne, et de l'autre, Ersin Tatar, le dirigeant de la République turque de Chypre nord, autoproclamé et reconnu par la seule Turquie. Les puissances garantes de l'indépendance de Chypre, à savoir la Grande-Bretagne, la Grèce et la Turquie, y participent aussi, mais la question est unique. Un accord de paix est-il proche? Les Chypriotes grecs veulent une réunification. La partie occupée, elle, semble préférer la division totale, de manière à maintenir les quelques 30 000 soldats turcs sur cette partie de l'île. Le dernier cycle des pourparlers de paix en 2017 a échoué. Depuis, les deux dirigeants chypriotes se rencontrent de temps en temps pour tenter de relancer les pourparlers, comme en janvier dernier, où ils voulaient discuter de l'ouverture d'un 10e point de passage entre les deux parties de l'île, car de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer davantage de points de passage le long de cette zone tampon de 180 km² afin de faciliter l'accès des personnes vivant dans des régions isolées. Reste à savoir si cela avancera. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
À la veille d'un entretien entre les présidents américains et russes sur l'Ukraine, le Vatican espère un dialogue sincère, soumis à aucune condition préalable visant une paix juste et durable, le Saint-Siège qui confirme l'échange de la semaine passée entre le secrétaire d'État et le président ukrainien. Au Vatican ce soir, le cardinal Dominique Manberti, préfet du tribunal suprême pour la signature apostolique, préside la récitation du chapelet à partir de 19h30, place Saint-Pierre, en direct aussi sur Vatican News. Un chapelet, on le sait, pour le prompt rétablissement du pape. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. Une excellente soirée à toutes et à tous.